Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Les politiques, les experts sont prévenus. C'est l'une des journalistes les plus coriaces du PAF. Son aversion pour la langue de bois, son exigence explique sans doute pourquoi C'est dans l'air. L'émission incarnée pendant 15 ans par Yves Calvi marche toujours aussi bien, enregistre même des records d'audience. Bonsoir Caroline
Roux. Bonsoir.
On est ravis de vous recevoir dans les dessous de l'écran. Évidemment, on associe Bruce Toussaint à ses bons résultats.
Évidemment.
Il présente C'est dans l'air le vendredi et le samedi. En tout cas, vous allez nous dire comment vous faites du lundi au jeudi pour écraser la concurrence. Bonsoir Benjamin Meff.
Bonsoir Philippe, bonsoir
dans
à tous.
Dans un quart d'heure, retour sur une des polémiques de la semaine.
Oui, jeudi, Paris Match a choisi délibérément de se mettre hors la loi en publiant deux photos prises à l'intérieur de la salle d'audience lors du procès Mera. Alors Paris Match assume, ces photos d'île hebdomadaire sont nécessaires, c'est une information pour l'histoire. La presse judiciaire, elle, a crié au scandale. Pour elle, caméra, appareil photo et micro doivent rester hors du prétoire.
Alors que faut-il en penser? Eh bien, on va ouvrir le débat avec Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match, Cindy Hubert, journaliste judiciaire à RTL, et Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice à RTL également. D'abord, l'actu média de la semaine. Décision radicale au sein du groupe Altis, le groupe de Patrick Drahi qui possède entre autres BFM TV et Libé. La dette colossale du groupe, 50 milliards, et les difficultés de SFR ont fait perdre à l'action plus de 30% de sa valeur en une semaine. Michel Combes, PDG de SFR, est débarqué, remplacé par Alain Veil. Au grand jury sur RTL aujourd'hui, Stéphane Richard, le patron d'Orange, a fait ce commentaire sur le modèle Altis.
Dans les télécoms, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est un modèle d'intégration, voilà, où on dit j'achète mes contenus, j'achète les droits, je fais mes chaînes et ensuite je fais des contenus exclusifs. Ça n'est pas notre modèle. Parce que nous avons une conviction très forte, c'est que l'utilisateur, vous, moi, ce qu'on veut avoir surtout, c'est la liberté de choix. Nos clients, ils veulent avoir Netflix, ils veulent avoir Canal+, ils veulent avoir toutes sortes de contenus librement, et que je pense qu'ils n'ont pas du tout envie qu'on les mette dans une espèce de souricière dans laquelle on leur dit « Tu as pris un abonnement, tu vas aussi consommer nos contenus ». Si vraiment la référence du modèle c'est Altice, j'ai pas forcément envie de la suivre. Voilà.
Selon le journal du dimanche, les deux chaînes parlementaires LCP et Public Sénat vont fusionner d'ici fin 2018 pour faire des économies. Les deux présidents des chambres, François de Rugy et Gérard Larcher, sont d'accord. Mike Horn annonce la fin de À l'état sauvage, l'émission diffusée sur M6. La chaîne a encore en stock un numéro avec Adriana Carambeu. Mike Horn ne quitte pas la 6, pour autant il a dans ses cartons un nouveau projet. Enfin, Anne-Sophie Lapix va bientôt présenter les infos sur deux chaînes à la fois, puisque la journaliste du 20h de France 2 va avoir sa marionnette au guignol.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
1 300 000 téléspectateurs chaque soir. C'est aujourd'hui l'audience moyenne de C'est dans l'air, l'émission de France 5 que vous animez, Caroline Roux, depuis plus d'un an comme titulaire. Je rappelle l'horaire, hein, 17h45-19h du lundi au jeudi. Comment expliquez-vous que, malgré le départ d'Yves Calvi, malgré une concurrence accrue, ce soit toujours l'émission référence en matière de débat d'actualité?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un format qui est très singulier. J'ai l'habitude de dire qu'on a le pas lent et la tête froide. C'est-à-dire que dans un moment où l'actualité va très vite, où une actualité chasse l'autre, nous, on garde notre rythme et ça, on l'a pas perdu. La recette initiale de C'est dans l'air est restée la même. Il y a une autre raison au succès de C'est dans l'air, c'est France 5.
Oui.
Parce que, non, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que c'est aussi un programme associé à l'identité d'une chaîne. Après, on est arrivé avec Bruce Toussaint et on s'est glissé dans le format avec beaucoup d'humilité en se disant, bah, ça marche depuis 15 ans. Voilà, on va pas se la raconter en disant on va mettre notre patte, etc. On est resté exactement, ça aurait été une folie.
Quand Yves Calvi est parti en juin 2016, l'audience, comme vous le disiez, n'a pas baissé. L'an dernier, on disait si l'audience baisse pas, c'est parce qu'il y a la présidentielle, donc ça porte naturellement l'émission. Et cette année, il n'y a ni Calvi, ni présidentielle. Et pourtant, ça tient toujours la route du côté des audiences, grâce à vous. Je sais pas, je vous pose la question.
J'adorerais vous dire que c'est grâce à moi, que je suis exceptionnelle, que j'ai sauvé cette émission. Mais ce serait une blague. Je pense que ce que je vous ai dit, le format, la qualité des intervenants, le rythme, France 5, ça fait qu'il y a une alchimie et qu'on a besoin d'explications en ce moment parce que franchement, on est dans un climat qui est très singulier, qui est très particulier, que ce soit politiquement, que ce soit au niveau de ce qui se passe dans le monde plus généralement, l'élection de Trump, ce qui se passe en Corée du Nord, etc. Et en réalité, c'est aussi pour ça que ça, que ça fonctionne. Moi, vous savez, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je vois que cette saison-là, depuis septembre, on a fait notre record avec presque 1 700 000 téléspectateurs sur l'Arabie Saoudite. Ouais. Et là, je me dis, collectivement, il y a une intelligence des téléspectateurs. Ouais. Ils ont vu passer cette information, se disant, tiens, les femmes peuvent conduire en Arabie Saoudite. Et nous, on arrive, peut-être même une semaine, deux semaines plus tard, avec une émission d'1h10, où on va expliquer ce qui est en train de se passer, qui est ce fameux MBS. Ouais. Et là, vraiment, on a une valeur ajoutée et on est les seuls à faire ça.
Est-ce que vous n'étiez pas tentée, Caroline Roux, au début, de singer Yves Calvi, de copier son style? Donc, vous êtes en train de me dire que, si je résume bien vos propos, je l'imite très mal. Hein,
non, vous êtes très très bon en Yves Calvi. Je pense que ça aurait été grotesque. J'ai tout fait à l'inverse pour ne pas singer Yves Calvi. Même quand j'étais sa doublure, quand j'étais son joker, je ne le regardais pas. Justement, je savais qu'il était tellement puissant, son lien avec les téléspectateurs, le fait que son image soit tellement associée à cette émission, que je me suis dit, soit j'arrive avec ce que je suis, soit ça va être grotesque. Donc, je l'ai très peu regardé, Yves, en réalité.
Benjamin, on va peut-être donner quelques chiffres d'audience, parce qu'on a dit que ça cartonnait en début d'émission, mais on va donner des ordres de grandeur, surtout.
Alors, dans le match des débats qui vous oppose quand même à Yves Calvi et David Pujadas sur LCI, même si les horaires ne sont pas exactement les mêmes, il n'y a pas photo, hein, on va dire. Vous êtes suivi en moyenne par 1 300 000 téléspectateurs chaque jour. Yves Calvi sur Canal+, avec l'info du vrai, réunit en moyenne 170 000 téléspectateurs, avec des jours à 300 000. Et David Pujadas sur LCI, avec 24 heures Pujadas, réunit en moyenne 150 000 téléspectateurs, donc encore moins qu'Yves Calvi. Oui. Comment vous expliquez cette différence d'audience, alors que ce sont des émissions quand même proches dans leur format?
Proches dans leur format même.
On a l'impression, si on ne rentre pas dans le détail, que c'est la même chose. Je ne crois pas que ce soit la même chose.
Pour vous, ce n'est pas du tout les mêmes émissions.
Ce n'est pas que ce n'est pas les mêmes émissions. Bien sûr que c'est du décryptage, on a des experts autour d'une table et c'est de la télé. Donc, a priori, on pourrait se dire que ce sont des formats qui sont proches. Mais nous, on n'a pas de journaux, on n'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas d'édition qui viennent saucissonner cette émission. Il n'y a pas de pub, coupure pub. On est de 17h45 à 18h50 sur un même thème, avec trois reportages qui sont sur le même thème.
Il faut parler des reportages qui sont excellents également.
Merci de le dire. Parce que habituellement, on parle beaucoup des présentateurs. Oui. C'est très gentil, on est très flattés. C'est pour ça qu'après, on finit par prendre la grossette. Mais franchement, sortir trois reportages de 4 minutes par jour sur une seule thématique, donc ça veut dire, vous voyez ce que ça veut dire, vous êtes des professionnels. Ça veut dire qu'il faut trouver des angles, il faut trouver des interlocuteurs, il faut trouver de la séquence. C'est aussi pour ça. Donc en réalité, quand on compare des formats comme ce que vous venez de faire, c'est-à-dire l'info du vrai ou ce qui se passe sur 24 heures Pujadas, on s'arrête à l'idée qu'il y a des experts autour d'une table. Sincèrement, quand on décrypte les formats, il y a une singularité de C'est dans l'air qui fait que je pense que vous tenez une partie de l'explication des scores d'audience.
Caroline Roux, l'une des autres marques de fabrique de l'émission, c'est qu'il n'y a pas de clash. Alors, on pourrait dire que ça manque de clash, mais non. On y va parce que justement, ça n'est pas stérile. Moi, j'ai recherché sur Internet des clashs dans C'est dans l'air, j'en ai trouvé un seul.
C'était
et encore.
Lequel?
C'était ça, écoutez.
Cette jeune fille qui disait on se fait contrôler, on se fait traiter de bamboula, on se fait cracher dessus. Peut-être que cette jeune fille affabule. Il y a cette version-là qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça.
Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable.
Non.
De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus.
Dans les deux sens, ça n'est pas convenable.
Mais c'est la conversation qu'il y a entre les deux. Ouais. C'est ça le problème.
Voilà, c'était un syndicaliste policier. Caroline, vous
Je vais vous dire quelque chose de très sincère. J'étais très triste que ça se passe sur le plateau de C'est dans l'air. Et j'en ai beaucoup voulu à cette personne de mettre en réalité C'est dans l'air dans cette situation-là. Ça n'arrive jamais parce que C'est dans l'air, c'est une émission boutonnée. C'est une émission où on fait attention à la manière dont on parle. On n'est pas dans l'outrance. On n'essaie pas de parler plus fort que le son ambiant pour exister. Donc le fait qu'il ait lâché cette phrase scandaleuse sur ce plateau-là, c'était pas l'endroit. Et moi, j'ai pas cherché à en rajouter. J'ai eu un non spontané. J'étais pétrifiée pendant toute la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, je suis venue le voir en disant je vous en veux de nous avoir mis dans cette situation-là.
Mais du coup, il ne participe plus à C'est dans l'air et ne participera plus à l'émission.
Non, non mais il était très malheureux lui aussi. De voir l'ampleur que les choses... la façon dont les choses se sont passées, etc. Il a voulu retracer une réalité de terrain. Voilà, après, c'est rude, je pense, pour tous les gens qui se sont sentis visés, concernés.
Ouais, et puis, il faut rappeler que C'est dans l'air, c'est du direct. Le direct, c'est très facile de donner des leçons, mais c'est aussi très difficile de tout maîtriser.
Et le CSA a reconnu qu'on avait géré cette situation correctement.
Caroline Roux, les téléspectateurs ne l'ont peut-être pas remarqué, mais le casting des invités de C'est dans l'air a évolué. Les experts que vous invitez sont de plus en plus souvent des expertes. Et ça, je pense que ça vous fait plaisir.
Ah, qu'est-ce que ça me fait plaisir. On reparle de ce record d'audience, vous savez, de lundi dernier, où on a fait 1,7 million sur l'Arabie Saoudite. Il y avait 4 femmes en plateau. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui vraiment une génération de femmes qui osent, qui se dit « bon, bah, c'est mon tour ». Je fais 2 pas en avant et j'entre dans la lumière. Il y avait aussi, pardon, un manque de volontarisme de la part des médias, parce qu'on se disait, bon, on va prendre toujours les mêmes, c'est toujours des costumes cravates et puis c'est pas si grave. Aujourd'hui, vraiment, on ne fait presque plus d'émissions, ou alors on le considère comme un échec, sans femmes. Ça n'est pas arrivé depuis des mois.
Caroline Roux, est-ce que vous diriez que c'est plus facile aujourd'hui, en 2017, d'être journaliste politique femme qu'il y a 10 ans ou 15 ans ?
Je pense que oui, je pense que c'est plus facile. J'ai jamais ressenti ça comme un exercice difficile. J'étais aux côtés d'Alba Ventura, que vous connaissez bien ici.
Il y a des années,
on a commencé toutes les deux, et on s'est toujours serré les coudes, et on a toujours affronté ce milieu un peu macho, avec un vrai tempérament. Vous cache pas. Donc on n'a jamais souffert d'une forme de machisme, etc. Aujourd'hui, évidemment, il y a certains grands rendez-vous politiques qui sont portés par des femmes, des grands rendez-vous d'information. Je pense à Anne-Sophie Lapix ou à Léa Salamé. Donc les choses sont tellement installées qu'on a l'impression qu'on a fait effectivement pas mal de choses. Elisabeth Martichoux, naturellement, comment l'oublier sur RTL le matin. Donc vous voyez, c'est des grands rendez-vous, des rendez-vous majeurs qui sont portés par des femmes. Donc ça veut bien dire qu'on a fait du chemin quand même.
Caroline, autre sujet d'actualité dont vous avez forcément parler dans vos rendez-vous sur France 2, France 5, c'est cette parole qui se libère partout dans le monde, parole des femmes contre le harcèlement sexuel. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je voyais Anne-Sophie Lapix dire qu'elle avait subi des choses, évidemment, au début de sa carrière. Est-ce que vous en avez souffert et quel regard vous portez sur ce déballage planétaire aujourd'hui ?
Alors moi, je n'en ai pas souffert. Je me suis posé la question lorsque j'ai vu qu'Anne-Sophie, et puis j'ai vu évidemment ce déferlement de paroles. Je me suis dit, tiens, est-ce que moi, à un moment donné, je me suis retrouvée dans une situation de harcèlement, où la drague, c'est une chose, les propos lourdingues, ça arrive de temps en temps, mais je ne les ai pas vécues comme du harcèlement. Après, c'est un arbitrage personnel, vous voyez ce que je veux dire. Après, ce déferlement, comme vous dites, de paroles, me stupéfait. Parce que je me dis, il a suffi qu'on balance un hashtag, il a suffi qu'on se dise que quelqu'un comme Harvey Weinstein n'était pas un submersible, pour que des femmes partout dans le monde se disent « bah, je vais le dire ». Et du coup, ça a mis au jour une réalité épouvantable. Donc, parfois, certains sont un peu exaspérés en disant « oui, ça va trop loin, c'est un déferlement ». Moi, je ne le pense pas du tout. Il faut ouvrir cette espèce de truc poisseux qui a été vraiment rentré pendant des années, et que ce soit plus permis aujourd'hui de mettre une main aux fesses d'une femme sans considérer, en se disant que c'est pas si grave.
Y compris en balançant des noms sans aucune preuve sur des réseaux sociaux.
Alors ça, c'est effectivement, après, je pense que c'est difficile, quand on a été victime de choses comme ça, de savoir quel est le bon moyen la bonne personne à qui le dire. Donc il y a eu ce hashtag, il y a eu ce mouvement, et ça s'est fait de façon désordonnée. Après, le meilleur moyen d'aller au bout et sans doute de faire bouger les choses, c'est d'aller devant la justice.
Exactement.
Chacun son travail, et c'est à la justice et pas un tribunal populaire de régler les choses. Mais le fait de voir que certaines personnes qui semblaient inattaquables, protégées d'un système, se retrouvent aujourd'hui obligées de rendre des comptes, je pense, donne l'impression qu'on a... Là encore, je vais vous demander du temps. Est-ce qu'on va remettre un couvercle là-dessus, ou est-ce qu'on va vraiment changer d'attitude dans les entreprises, dans la façon de parler, dans la façon d'être sur la voie publique? Moi, j'ai des filles qui ont l'âge de se faire siffler dans la rue. Et quand elles me racontent ça et qu'elles me disent « je suis obligée de baisser la tête », mon sang ne fait qu'un
mal.
Tour.
Ouais.
Alors on va se laisser un petit peu de temps pour voir si les choses changent. Ça passera peut-être par la génération d'après qui se dira bah, « ça ne se fait pas et c'est interdit
». On va vous remercier Caroline Roux d'être venue au-dessous de l'écran. C'était un plaisir. On rappelle que tous les après-midi, fin d'après-midi, 17h45, 17h50, c'est dans l'air, et tous les matins.
7h38.
7h38, pour être précis, les 4 vérités sur France 2. À bientôt.
À bientôt, merci à vous.
Dans un instant, débat. Les salles d'audience doivent-elles autoriser caméra, appareil photo et micro ?
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Les salles d'audience doivent-elles rester interdites aux micros, caméras et appareils photo ? Jeudi, Paris Match a relancé le débat en publiant 2 clichés pris à l'intérieur de la salle d'audience lors du procès Mera. Photos interdites par la loi, des plaintes ont été déposées et d'ailleurs une enquête est ouverte, Benjamin.
Oui, ce coup de force, Paris Match l'assume. Ces clichés d'Ile Hebdomadaire sont une information pour l'histoire. La presse judiciaire condamne, elle, cette pratique. Pour elle, un prétoire doit être préservé de tout enregistrement visuel ou sonore.
Alors qu'en pensez-vous ? Eh bien, on en débat ce soir avec Olivier Royan, le directeur de la rédaction de Paris Match, qui est au téléphone avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Avec à nos côtés Cindy Hubert, spécialiste des questions judiciaires à RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Jean-Alphonse Richard, chef du service police-justice de RTL. Bonsoir.
Bonsoir.
Je crois qu'il va y avoir du sport d'ailleurs entre vous deux, Cindy et vous, Alphonse, parce que vous n'êtes pas d'accord. Olivier Royan, la parole à l'accusé, hein, si j'ose dire. Pourquoi avoir publié ces deux photos dans la salle d'audience du procès Mera alors que vous saviez parfaitement que c'est interdit ?
On a décidé de publier ces photos parce qu'on considère qu'elles sont un témoignage très important. C'est un témoignage vis-à-vis de, je pense, l'attitude méprisante vis-à-vis des victimes et de la justice, en particulier de l'accusé. Et puis, ces photos sont un témoignage parce que, si je m'en réfère par exemple au dessin de presse, Abdelkader Meira porte une chemise bleue sur les dessins de presse. Ben, c'est pas vrai. Il porte une chemise blanche et il affirme à travers ce témoignage, à travers cette montre qu'il porte au poignet droit, à travers sa tenue vestimentaire, il veut envoyer un message. Et on considère donc que cette photo est un témoignage très important parce que c'est un procès historique. Les familles des victimes avaient demandé en vain de pouvoir faire filmer les audiences pour pouvoir avoir ce témoignage, particulièrement sur l'attitude d'Abdelkader, aussi éloquente que ses propos et ses silences. Elles n'ont pas réussi à l'avoir. Je pense que cette photo apporte un témoignage pour l'histoire, comme ça a été le cas dans d'autres procès précédents.
Olivier, on va demander à Cindy Hubert, qui a assisté à tout le procès Mera pour RTL. D'abord, rappelez-nous ce que dit la loi. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas en la matière ?
Alors, ce qui est interdit, c'est très clair, c'est les sons, les photos, les films. C'est-à-dire qu'on a une loi qui date de 1881, qui est sur la liberté de la presse. On n'a pas le droit de prendre de photos, on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit d'enregistrer également, de faire des enregistrements sonores.
La loi de 1881 interdit les films ?
Absolument, elle interdit.
De 1881 interdit les films.
Elle interdit toute captation.
Toute captation d'images et de sons.
En 1881.
Toute captation d'images et de sons, ce qui inclut bien évidemment les films. Toute captation d'images et de sons, ce qui interdit évidemment, de fait, les films. Et cette interdiction, elle commence au premier jour du procès, à partir du moment où...
Olivier, on va laisser Cindy expliquer ce qui est dit la loi.
Cette interdiction, elle commence à partir du début du procès, c'est-à-dire à partir du moment où les débats sont ouverts. Et cela inclut les suspensions d'audience, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un quelconque enregistrement pendant également les suspensions.
Olivier Royan.
Il y a aujourd'hui un paradoxe, c'est que cette loi n'est absolument pas adaptée à notre temps. Par exemple, quand on voit qu'on peut suivre un procès en live tweet.
On va en parler, c'est intéressant.
Ça paraît évident que cette loi est totalement décalée. Et il faut rappeler le contexte d'interdiction. L'interdiction de prendre des photos ou d'enregistrer des paroles au cours d'une audience judiciaire et de les diffuser est une disposition qui a été ajoutée à la loi sur la presse à l'initiative d'Alain Perfit en 81. Et donc, il ne s'agit pas du tout d'une loi qui a permis... c'est une loi qui est dans un contexte particulier, qui était là pour instaurer, pour éviter de perturber les débats. Cette photo, elle a été prise pendant l'interruption de séance, elle n'a pas été prise pendant les débats.
Qui les a prises, ces photos, Olivier ?
Elle a été publiée après la fin du procès. C'est un élément très très important, elle n'est pas venue influencer les jurés.
Qui les a prises, ces photos, Olivier ?
Ça ne peut pas être un journaliste, déjà. Ça ne peut pas être d'avoir un journaliste de Paris Match ni un photographe de Paris Match, puisqu'on n'était pas accrédité. Et si on regarde la topographie de la salle d'audience, c'est absolument impossible d'avoir pu prendre cette photo depuis le box de la presse.
Donc, Maître Dupont-Moretti dit ça vient soit d'un journaliste, soit des parties civiles.
Mais Monsieur Dupont-Moretti peut dire ce qu'il veut. En tout cas, ça ne peut pas venir d'un journaliste si on regarde la topographie de la salle d'audience.
On vous l'a proposé, vous l'avez acheté, ces photos ?
On n'a pas acheté, on a eu accès à ces documents et on a considéré après débat, on a eu une discussion entre nous, on a considéré que c'était très important que le public puisse aussi avoir accès à ces photos. C'est pas simplement le procès Eichmann dont on a passé des photos, c'est pas simplement Klaus Barbie, c'est pas simplement, ça a été aussi Guy Georges, Carlos, Paul Touvier, tout ça ce sont des moments d'histoire, on n'est pas en train de parler d'un
fait divers lambda. Monsieur, ils ont été filmés en l'occurrence, le procès Touvier, le procès Klaus Barbie, ils ont été filmés.
Il faut se mettre un peu à la place des auditeurs, là, parce que là, on part un peu dans tous les sens. Il faut se distinguer deux choses. Les photographies prises lors d'une audience à l'intérieur du prétoire et les images filmées autorisées par certaines cours lors d'un procès dit historique. Oui. Alors, vous dites que le procès Mera est historique. Visiblement, ce n'était pas l'avis de la Cour de Paris.
Non, mais c'est même pas... Alors que les familles des victimes avaient demandé...
Trois familles.
Filmer les audiences.
Pas toutes les familles.
En l'occurrence, donc, la première présidente de la Cour d'appel a jugé que l'intérêt historique de ce procès n'était pas prouvé, d'où cette décision de ne pas filmer le procès. Je rappelle que le dernier procès filmé, ça a été le procès du premier génocidaire rwandais, Simi Kangwa, où effectivement il y avait des caméras fixes qui ont filmé le procès du début à la fin. Ici, la justice a estimé que ce procès ne devait pas être filmé. Je ne vois pas en quoi cette photo a un intérêt et journalistique ou historique dans dans le sens où on peut mettre ce qu'on veut derrière cette photo. Qu'est-ce que vous écrivez ? Vous écrivez « il sourit encore » sur la photo.
Mais on prouve exactement l'attitude qu'a eu Abdelkader Merah tout au long du procès et ce regard que les familles des victimes ont eu à affronter pendant plusieurs semaines, bah les Français en sont témoins aujourd'hui.
Mais Olivier Royan, vous savez comme moi, et même mieux que moi, puisque Paris Match, les photos, ça veut dire quelque chose, qu'une photo, on lui fait dire ce qu'on veut. Si Abdelkader Merah avait eu la tête dans les mains, vous auriez légendé, voilà, il sait qu'il a perdu ou je ne sais quoi. Là, il sourit et vous en déduisez qu'il se moque des victimes. C'est une interprétation.
Non, mais ce n'est pas une interprétation. Il s'agit le port du vêtement blanc, le fait qu'il ait porté sa montre d'une certaine main. Enfin, il y a toute une attitude de Merah que ne pouvait pas négliger. C'était une sorte d'attitude méprisante et d'indifférence vis-à-vis des victimes et même de la justice. C'est l'histoire de ce procès. On verra comment ça se passe dans le deuxième procès, puis s'il y aura un appel. Mais en tout cas, c'est un fait. Et il se trouve que cette photo, elle le montre mieux qu'un dessin de presse, puisque sur un dessin de presse, Merah porte une chemise bleue.
Jean-Alphonse Richard, on vous écoute.
Cindy Hubert vient de faire la démonstration qu'il fallait plusieurs photographes en salle d'audience, tout simplement parce que quand on a une photo unique, c'est sûrement une photo arbitraire, c'est une prise de vue qui est choisie, qui est déterminée. Si on a plusieurs photographes dans une salle d'audience, ça serait pas la même chose. On aurait d'autres visions, d'autres angles de vue, etc. On va laisser, si vous voulez, de côté un petit peu les procès filmés pour l'histoire, parce que d'abord, il y en a très peu, ça répond à des règles extrêmement précises
et
très difficiles à exploiter. Il faut des années avant de voir ces images. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Aujourd'hui, on est dans un plein paradoxe. On a un procès aujourd'hui qui est un procès en France, qui est un procès public. C'est-à-dire que tout le monde peut assister à une audience. C'est comme ça. C'est en France, c'est la démocratie. Les journalistes sont invités aux audiences. On peut, comme disait Olivier Royan parfaitement, on peut tweeter en direct les procès, donc on peut suivre même à distance les procès. Et puis, il y a cette incongruité de ne avoir aucune image, et tout cela parce qu'un président ou une présidente l'a décidé de manière totalement arbitraire. Alors, moi, je ne sais pas dans quelle mesure on peut photographier, faire des prises de vue, etc., mais il faut absolument que le débat s'ouvre là-dessus, et il faut légiférer. Et puis, j'ajoute à ça qu'effectivement, il y a aussi cette incongruité, c'est que nous avons en France des dessinateurs à l'audience. Alors, ils sont plus très nombreux parce que les journaux, hélas, la presse écrite est en train de mourir et qu'il y a de moins en moins de journaux pour les payer et les, etc. Ce sont des gens de talent. Ils ont, eux, le droit parfaitement, donc, de croquer, si vous voulez, la personne qui est accusée et toutes les personnes qui sont d'ailleurs présentes à l'audience, y compris le public, à l'exception des jurés. Et on dit, ils sont autorisés parce que c'est une interprétation du procès. Alors moi, ça, j'ai toujours été ébahi par ça. Une interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de la fiction. C'est-à-dire qu'on imagine ce que pourrait être la personne qui est en face. Ça, la photo ne peut pas le trahir. Alors effectivement, on va vous dire, la photo peut être truquée, on peut prendre le sourire de la personne, on peut dire qu'il a un air méchant, etc. Mais voilà.
Donc vous, Jean-Alphonse, vous êtes de l'avis de...
Ah non, mais moi, je suis de l'avis. Non, pas forcément que ça soit systématique, mais je pense qu'il faut légiférer là-dessus.
Benjamin Maître, une question.
Alors moi, j'entends tous ces arguments, hein, je les comprends. Après, concrètement, comment on fait? Alors, qui prend les photos? Combien de photos seront prises? Est-ce qu'elles seront contrôlées par le tribunal? Qui les choisira? Comment on fait?
Eh bien, ça peut être tout à fait mis sur la table du législateur.
Oui. Je voudrais qu'on revienne sur un point, Olivier Royan. Vous avez parlé tout à l'heure de live tweet. Pendant le procès Merah, il y a des journalistes qui ont live tweeté en direct. Cindy Hubert, vous étiez dans la salle d'audience. Comment ça se passe?
Ils sont dans le box-presse et ils essayent de rendre fidèlement, c'est-à-dire minute par minute, ce qui est en train de se passer dans les débats. C'est un exercice qui est complètement différent de l'article ou du papier radio ou encore du duplex télé, dans le sens où on essaye de raconter vraiment en direct ce qui se passe, phrase par phrase, alors que nécessairement, quand on fait un compte-rendu à la radio, par exemple, on va raconter en une minute une journée. Donc c'est nécessairement subjectif. Ici, il s'agit de rendre vraiment fidèlement ce qui est en train de se passer à l'intérieur du prétoire.
Et un live tweet, c'est toléré, c'est légal?
Et bien c'est là qu'on arrive dans toute la difficulté que va nous poser cette photo. C'est-à-dire que nous, au sein de la presse judiciaire, on se bat tous les jours pour que notre présence soit tolérée, parce qu'évidemment, les procès, ils sont publics, mais on ne fait que nous tolérer. Et donc, c'est tous les jours des arrangements avec les présidents des cours. Certains vont autoriser les live tweets, d'autres vont être contre. Et donc, c'est une pratique qui est tolérée, on va dire.
Est-ce que je peux dire quand même une chose, Cindy? Je reconnais tout à fait le travail de la presse judiciaire. Moi, je pense que vous avez aussi le droit de ne pas simplement défendre vos habitudes et que vous avez le droit de porter un combat qui vous dépasse largement et qui est celui de nos libertés collectives. La France, actuellement, est descendue au rang de 38e pays en ce qui concerne la liberté de la presse. C'est pas comme si on montait chaque année. On est au niveau du Cap-Vert. On est en 38e position. Alors votre combat de la presse judiciaire, c'est pas simplement d'avoir le droit de tweeter, c'est d'avoir le droit aussi d'avoir accès à l'information. Les mots ont une valeur, les images aussi ont une valeur. On n'est plus au 19e siècle. Et je pense que cette question des images dans les prétoires est vraiment très importante. Et qui mieux que vous est là pour défendre ? C'est un combat qui nous regarde tous, mais vous aussi, en tant que presse judiciaire.
Jean-Alphonse Richard.
Il y a toujours une approximation. On ne sait jamais trop si c'est autorisé, pas autorisé, si on va pouvoir ou pas. Alors écoutez, une bonne fois pour toutes, il faut mettre les choses sur la table et en parler. Le débat est extrêmement serein. Je crois qu'il ne faut pas bannir comme cela la possibilité de photographier des audiences, sans doute sous certaines conditions, avec des autorisations, avec du droit à l'image qui va s'imposer. Mais il ne faut pas que ce devienne un sujet tabou, parce qu'une profession comme la magistrature voudrait se protéger d'une quelconque incursion. C'est pas normal.
Bien, on répondra pas à toutes les questions ce soir, hein, Olivier Royan, Signe Dubert, Jean-Alphonse Richard, Benjamin Meffre, mais voilà, on aura mis le débat sur la table, et manifestement, vous êtes un certain nombre à penser qu'il faut faire évoluer les choses. Merci à tous les quatre, et à bientôt.
Les dessous de l'écran sur RTL, avec Pure Média.